Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon et Nicolas Sendé, mais aussi Mélanie Chalandon et Bertille Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Olivier Arnay. Dernier temps de notre semaine consacrée à ces territoires désunis entre séparation et réunification. Après nous être intéressés lundi à l'Allemagne, mardi aux Balkans, hier à la péninsule coréenne, tournons-nous aujourd'hui vers l'Irlande.
Si on remet des contrôles, ça va recréer des tensions, des problèmes, quoi qu'en disent les politiques. Ils ne savent pas ce que c'est de vivre sur la frontière.
Je travaille en Irlande du Sud et je vis en Irlande du Nord. Il est donc évident que le fait de devoir traverser tous les jours la frontière sera un inconvénient. Il faudra que je fasse la demande, que je paye, et je ne sais pas combien de fois il faudra le faire. En tant que citoyen irlandais, détenteur d'un passeport irlandais, je serais inquiet de devoir montrer mes documents à la frontière.
Nous avons trouvé un accord. Il a été voté par le Parlement britannique il y a 9 mois. Il a été voté par le Parlement européen il y a 9 mois. Et maintenant, 9 mois plus tard, une des parties de l'accord a unilatéralement décidé, de son propre chef, de changer des éléments de cet accord. Cela cause de la confusion, beaucoup de confusion. Je pense que ça a, d'une certaine manière, endommagé la confiance entre les deux parties.
C'est le serpent de mer des négociations sur le Brexit, la définition du statut de la frontière irlandaise. L'équation semblait résolue avec l'accord signé en fin d'année dernière, mettant en place pour éviter une frontière dure entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, un backstop maritime entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. Mais, Boris Johnson en a décidé autrement. Il a décidé d'ouvrir la possibilité de remettre en cause ce dispositif dans le cadre d'une loi sur le marché intérieur adoptée il y a 2 semaines, alors qu'un nouveau Conseil européen s'ouvre aujourd'hui. À moins de 3 mois maintenant de la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'impression s'impose d'un retour à la case départ. Ce blocage traduit à la fois les impensés britanniques en amont du Brexit, mais aussi peut-être la fragilité du statu quo en Irlande du Nord. Car en effet, les accords de 98, dits du Vendredi Saint, qui avaient mis fin à 30 ans d'affrontement entre indépendantistes catholiques et unionistes protestants, reposent précisément sur l'absence de frontières entre le Nord, nation du Royaume-Uni, et la République au Sud. En réactivant la perspective d'une frontière solide entre les deux, le Brexit bouleverse cet équilibre. Alors, comment les retournements successifs de Londres sur la question de la frontière irlandaise sont-ils perçus de part et d'autre de cette démarcation ici, jusqu'ici invisible? En Irlande du Nord, la perspective du Brexit réveille-t-elle les traumatismes de la guerre? Et quelles sont les perspectives de réunification de l'île d'Émeraude? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Fabrice Mourlon, qui est avec nous ici en plateau. Bonjour Fabrice Mourlon.
Bonjour Florian.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous aviez signé il y a quelque temps l'urgence de dire l'Irlande du Nord après le conflit. Vous êtes notamment intéressé à la question de la mémoire. Il en sera certainement question à un moment dans cette émission. Avec nous également, depuis Dublin, Agnès Maillot. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Université Dublin. Vous avez signé récemment l'IRA et le conflit nord-irlandais. C'était aux presses universitaires de Caen. Alors on va peut-être commencer avec cette loi que j'évoquais dans mon introduction. On va commencer avec vous, Fabrice Mourlon. Une loi qui permettrait de revenir sur les clauses de l'accord de sortie de l'Union européenne prise en janvier dernier. Cette loi qu'on appelle à Londres l'Internal Market Bill. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots son contenu et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ses conséquences possibles sur cette fameuse frontière qu'on va étudier ce matin.
Oui, alors le problème c'est que là on a une énième version de ce qui peut se passer, ça a beaucoup bougé. Moi je me focaliserai pas trop sur cette loi puisque ça peut encore être négocié. Le problème c'est la définition, qu'est-ce qu'on entend par frontière dure, the hard border. Et en fait, faut savoir que la frontière, en fait, a toujours été très poreuse entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, à partir, même pendant le conflit. La seule matérialisation de la frontière, c'était en fait les checkpoints de l'armée. Donc c'était en fait une frontière militarisée, et qui était militarisée uniquement sur les gros axes. entre par exemple Belfast, Dublin, ou dans l'est entre Derry et le Donegal. Donc en fait cette frontière, à l'époque même du conflit, vous aviez 10 kilomètres en Irlande du Nord et 10 kilomètres en République d'Irlande. Vous pouviez échanger les pounds et les punts de manière, enfin il y avait un espèce de commerce, et vraiment la frontière à l'époque c'était l'armée. Hein? Donc cette idée de frontière, si vous voulez, je pense que c'est tout, la peur de la frontière là, c'est des peurs un peu techniques sur l'échange des marchandises et le problème que ça va engendrer. Mais il y avait pas à l'époque de vraies douanes comme on l'a eu en Europe à l'époque, où on montrait ses papiers, on les montrait. Mmh. Chez les militaires, mais il n'y avait pas de douane en tant que telle. C'était pas matérialisé. Ils faisaient les deux, si vous voulez. Donc, ce que j'ai entendu avant, par exemple, les personnes qui disaient...
Il y avait notamment la ministre de la Justice nord-irlandaise, quand on est à la fin.
Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Le problème, c'est ce que vous disiez après, c'est plus les peurs que cela peut engendrer sur la possibilité d'une réunification ou pas.
Agnès Maillot, peut-être un mot sur ce texte quand même, sur cette nouvelle loi sortie du chapeau par Boris Johnson qui pourrait avoir des conséquences directes sur cette fameuse frontière. C'est en tout cas ce qu'on craint en Irlande. Des deux côtés de la frontière d'ailleurs.
Le Brexit introduit une situation entièrement nouvelle pour l'Irlande et pour le Royaume-Uni. C'est que effectivement, jusqu'à présent et même maintenant, il n'y a pas de frontière. Mais il n'y a pas de frontière parce que les deux pays ont rejoint l'UE en même temps, en 1972, pour continuer à préserver cet espace de libre circulation entre le Royaume-Uni et l'Irlande. Or, tout ça s'est remis en question par le Brexit. Donc, il est évident qu'on ne va pas construire des frontières solides qui vont démarquer les deux parties de l'Irlande de façon physique.
Pourquoi c'est évident ? Pourquoi dites-vous que c'est évident ? Rien n'a l'air d'être évident aujourd'hui, Agnès Maillot.
Alors, parce que d'une part, c'est une frontière qui est très longue.
Mm-hmm. 500 kilomètres, à peu près.
Voilà, donc on sait que les séparations physiques entre deux entités, c'est pas possible. Les murs, les barrières, etc., ça ne peut pas fonctionner. Et qu'il serait impossible aux forces de l'ordre de patrouiller une frontière qui est aussi longue, aussi poreuse, qui passe dans des jardins, dans des fermes, sur des chemins de traverse, etc. Donc cette frontière ne sera pas matérialisée comme le craignent certains. Mais en revanche, ça va poser des vraies questions sur la façon dont effectivement les produits transitent non seulement entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, mais entre le Royaume-Uni et la République d'Irlande en transit par l'Irlande du Nord. Donc c'est d'une complexité assez élevée. Et ce que proposait le premier deal de Theresa May, c'était de faire un backstop, c'est-à-dire de mettre la frontière entre la Grande-Bretagne et l'Irlande, c'est-à-dire exclure l'Irlande du Nord de cette équation. Et ça, évidemment, pour les unionistes, c'est absolument inacceptable.
Alors justement, Fabrice Mourlon, les unionistes du DUP ne veulent absolument pas de cette option-là, parce que ça ferait de facto de l'Irlande du Nord un territoire à part dans l'ensemble de la Grande-Bretagne. On sait combien ils ont été importants, Agnès Maillot parlait de Theresa May, à l'époque justement de Theresa May. Sa majorité dépendait précisément d'eux. Sauf que Theresa May n'est plus là, que maintenant c'est Boris Johnson, qui a eu des élections, qui ont permis une large victoire des conservateurs. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est jusqu'où peuvent-ils, ces unionistes, peser dans tout cela ? Est-ce qu'ils ont encore de la marge de manœuvre pour mettre la pression sur un Boris Johnson qui aujourd'hui a une majorité beaucoup plus confortable? Je sais bien qu'il a quelques problèmes dans la gestion du Covid. Très bien, ça le fragilise. Mais enfin, est-ce qu'il dépend, jusqu'où dépend-il encore de ces unionistes du DUP?
Ah ben, il dépend pas du tout. De toute façon, ça, vous avez raison. À l'époque de Theresa May, c'était sûr qu'il y avait un deal entre Theresa May et Arlene Foster. Maintenant, Je vous dis, le problème, c'est toutes les peurs que ça ravive. C'est-à-dire que les unionistes, évidemment, même avec le backstop de Theresa May, ils avaient peur que ça favorise toute la campagne du Sinn Féin notamment, qui veut une réunification entre le Nord et le Sud. C'est ça les grandes peurs. Maintenant, je vois pas comment Boris Johnson va pouvoir imposer ça. Enfin, de toute façon, la ligne dure de Arlene Foster, si vous voulez, elle restera malgré tout.
Oui, d'autant que ça pose des questions de droit très compliquées, parce que l'accord qui a été signé a valeur de droit, et donc l'Union européenne est d'ailleurs déjà engagée dans une démarche pour dénoncer cette fameuse loi. Il n'empêche que, de façon générale, Agnès Maillot, on a quand même un sentiment que, en réalité, vu de Londres, eh bien, alors il y a deux manières de voir les choses. Soit on dit, on peut changer de pied, on s'est volte-face, c'est aussi le résultat d'une adaptation au contexte politique. Ça dépend finalement d'où vient la pression et donc on change. Mais ça peut aussi vouloir dire que, au fond, on a que faire de cette question irlandaise. Que depuis Londres, c'est une question pas quasiment secondaire en réalité, Agnès Maillot. Est-ce que c'est une impression qui est partagée en République d'Irlande et en Irlande du Nord? L'idée d'être quand même un peu méprisé par Londres.
C'est compliqué parce que le gouvernement britannique est très ambivalent par rapport à l'Irlande du Nord. Boris Johnson, il a été capable de poignarder dans le dos les unionistes en décembre en décidant qu'il y aurait finalement un backstop, même s'il avait promis qu'il n'y en aurait pas, mais il a signé un traité avec l'UE qui comprenait le backstop. Et puis 3 mois plus tard, il est capable de présenter, enfin quelques mois plus tard, il présente un texte à la Chambre des communes qui en fait révoque cette clause du traité qui est un traité international, et il décide de façon unilatérale que finalement il y aura plus de backstop, que l'Irlande du Nord va rester non pas dans l'union douanière, ce qui était prévu, européenne, mais qu'elle va rester dans le même régime douanier que le Royaume-Uni. Donc on s'y perd un peu parce qu'on ne sait pas très bien si le gouvernement britannique cherche à rallier les unionistes, mais après tout, ils n'en ont pas besoin à la Chambre des communes puisqu'ils ont une majorité absolue. Il y a peut-être cette crainte de la part des conservateurs de mettre à mal l'union en général, c'est-à-dire en situant l'Irlande du Nord en dehors de l'accord conclu avec l'UE. On a déjà l'impression que ça amorce un mouvement vers une fragilisation de l'Union. Et ça, c'est très complexe, d'autant que les conservateurs ont toujours été très favorables à l'Union, à l'idée de l'Union, à l'idée de préserver le Royaume-Uni. Ils sont notamment très opposés à l'idée que l'Écosse puisse faire sécession à un moment donné. Donc on a ces considérations-là, d'une part, et d'autre part, on a eu un débat pendant pratiquement presque 4 ans maintenant, enfin plus que 4 ans, sur cette frontière irlandaise qui a mis à mal les relations britannico-irlandaises. Parce que les Irlandais, contrairement peut-être à ce qu'avaient projeté les Britanniques, les Irlandais ont tenu bon et ont été très très fermes sur la question du backstop et la question de la frontière. Au prix parfois d'échanges très acerbes entre les deux pays, au prix d'une rhétorique de la part de certains conservateurs un petit peu paternalistes en disant après tout les Irlandais ils ont qu'à se ranger dans le rang puisqu'ils l'ont fait pendant toute une période de la période de l'Empire, etc. Donc ça ravive des débats qu'on croyait enterrés, ouais, depuis longtemps sur la place de l'Irlande par rapport au Royaume-Uni. Donc tout ça, c'est très complexe. Et puis on a aussi, malgré tout, une population unioniste en Irlande du Nord qui est fermement opposée à toute idée de réunification et donc à toute idée de traitement de l'Irlande du Nord différent du reste de l'Union.
Mais cette opposition, Agnès Maillot, cette opposition, Agnès Maillot, elle s'est faite aussi au prix d'une crise politique interne très forte. Faut rappeler peut-être pour les auditeurs, là on va rentrer dans la politique politicienne nord-irlandaise, que pendant 3 ans, l'Irlande du Nord n'a pas eu de gouvernement. Faut rappeler les choses. Janvier 2017, la première ministre irlandaise de l'époque, Arlene Foster, membre du parti donc unioniste démocrate, le DUP, est poussé à la démission après la défection de son vice-premier ministre, Martin McGuinness. Et puis, il y a des élections anticipées en 2017. Elle échoue à former un nouveau gouvernement de coalition avec le Sinn Féin. C'est d'ailleurs le secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord, désigné par Londres, qui va reprendre le relais, justement, le temps de cette crise politique. Et puis, finalement, Arlene Foster va revenir. Fabrice Mourlon, est-ce que vous pouvez nous éclairer un tout petit peu sur ce fait, parce que c'est pas du tout évident de comprendre comment est-ce qu'elle a fait pour revenir au pouvoir alors même qu'elle en avait été écartée et qu'elle avait échoué à former une coalition. Et de façon plus générale, est-ce qu'il faut se comprendre que, compte tenu de ce contexte, on va vers une forme d'instabilité structurelle en Irlande du Nord? C'était la première fois qu'on avait une crise politique de cette sorte-là depuis les accords du Vendredi Saint. Il n'y a jamais eu comme ça une vacance de l'exécutif nord-irlandais. C'est la première fois. Il faut s'y habituer.
Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait...
Sur 3 ans, jamais.
Oui, non, c'est vrai. Mais si, plus, parce que 2002-2007, ça fait presque 5 ans. C'est-à-dire que... au début, quand la spécificité de l'accord du Vendredi Saint, c'est que les partis au pouvoir, enfin les partis élus, doivent partager le pouvoir. Donc c'est toujours des gouvernements de consensus. Donc ça n'a rien à voir avec le système français. C'est ce qu'on appelle le système consociationnel. Bon, donc évidemment, le premier gouvernement qui a été élu à l'époque, juste après l'accord du Vendredi Saint, c'était donc le SDLP et les unionistes modérés. On va dire que c'était des partis modérés, pour simplifier. Donc ça a marché, ça s'est écroulé en 2002. Puis après, ça a eu du mal à se remettre en place et les institutions ont refonctionné en 2007.
D'accord, donc c'est pas inédit, je me suis trompé.
Non, pardon. Mais et ensuite, si vous voulez, le gouvernement qui avait été formé par Ian Paisley du DUP et par Martin McGuinness a assez bien fonctionné, sauf que chaque année quand même, il faut se rappeler de ça, chaque année, il y avait toujours des problèmes entre les deux parties et il y avait une vacance de pouvoir de quelques semaines ou de quelques mois, notamment sur les questions qui touchent à la mémoire, le travail de mémoire, et aussi sur toutes les choses qui sont identitaires, c'est-à-dire l'utilisation de la langue gaélique, etc. Donc c'est pas...
On va revenir sur ces...
Voilà. Donc si vous voulez, il y a eu quand même pas mal d'interruptions, hein.
D'accord.
Et c'est vrai que les institutions sont relativement... sont pas tout à fait stables quand même.
Agnès Maillot, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on va vers une plus grande instabilité de ce paysage politique nord-irlandais, ou que finalement les institutions telles qu'elles ont été pensées, telles qu'a été organisé le partage du pouvoir avec ces accords du Vendredi Saint, eh bien tout cela est plutôt assez solide?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, les raisons pour lesquelles, comme le disait Fabrice, les raisons pour lesquelles ce gouvernement n'a pas réussi à s'entendre pendant 3 ans n'étaient pas liées au Brexit. Donc, il y a une coïncidence. Évidemment, le Brexit n'a pas aidé, puisque les unionistes étaient pour le Brexit et les nationalistes étaient contre. Donc, ça n'a évidemment pas contribué à améliorer les relations entre les deux parties. Mais la raison pour laquelle le gouvernement a été dissous à l'origine n'a rien à voir avec le Brexit. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la population nord-irlandaise dans son ensemble, elle est partisane de ce gouvernement local et de cette autonomie. C'est-à-dire que pendant 3 ans, il y a eu une pression relativement importante de l'opinion publique pour que les institutions soient restaurées. Parce que, en fait, ni les nationalistes, ni les unionistes, ni l'opinion publique ne souhaitent être gouvernés directement de Londres par le secrétaire d'État. Pour l'instant, on a un système de coalition forcée, puisque quel que soit le gouvernement, il faudra que ce soit une coalition. Et cette coalition, elle fonctionne tant bien que mal, mais elle fonctionne, et surtout, elle a le soutien de l'immense majorité de la population. Donc, les politiques, ils sont tout à fait conscients de cette situation. Ils ont bien vu que aux élections de 2019, les deux principaux partis qui étaient identifiés à cette impasse, à cette incapacité à trouver un compromis, ben ces deux partis, ils ont perdu des voix aux élections législatives, et donc ils ont bien fini par trouver des solutions qui leur permettent de remettre en place un gouvernement de coalition. Donc ça sera toujours très difficile pour ces deux partis de gouverner ensemble. C'est comme si on demandait à Emmanuel Macron de gouverner avec Jean-Luc Mélenchon.
Ça pourrait être compliqué. ça pourrait être compliqué, effectivement.
Ils sont posés pas uniquement sur. C'est pas uniquement l'avenir constitutionnel du pays qui les oppose. C'est des politiques économiques, c'est des politiques sociales. Ils sont en accord sur pratiquement rien.
Oui. Alors,
mais ils sont obligés de gouverner ensemble.
Fabrice Monlon, quand on s'intéresse à l'Irlande du Nord, on analyse quasiment toujours les choses, la situation politique en tout cas, à travers ce prisme, à travers cette opposition entre d'un côté unioniste protestant et puis de l'autre nationaliste catholique. Et bien sûr, il faut le faire. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'au fond, ce clivage suffit à expliquer les choses, ou est-ce qu'en réalité, il est assez largement dépassé? Et qu'est-ce qu'il faudrait introduire pour mieux comprendre?
Le clivage existe surtout dans certains quartiers qui sont les plus touchés par la pauvreté et par des questions identitaires. Mais c'est vrai que comme disait Agnès, les deux partis au pouvoir ont perdu des voix au profit de partis politiques comme The Alliance, qui sont plutôt des partis biconfessionnels, on va dire, pour faire simple. Donc, il y a une force, si vous voulez, une espèce de troisième voie, même si elle est petite, qui est en train d'avoir un peu plus d'importance.
Et puis, qu'est-ce qu'elle représente?
C'est justement la ministre de la Justice, Noémie Lang, qui, je sais plus les pourcentages.
En termes de poids politique.
C'est peu par rapport aux autres.
Mais ça existe alors que ça n'existait pas.
Voilà.
C'est nouveau.
Et si vous voulez, ils ont des postes, ils ont des ministères, donc c'est assez important. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a toute une génération qui n'a pas connu le conflit depuis 20 ans et qui aspire à autre chose, qui a beaucoup voyagé. Ce qui n'était pas le cas avant, pendant le conflit, les gens voyageaient un peu moins. C'est des gens qui sont un peu plus internationalistes, on va dire, qui sont ouverts sur le monde. Et ces gens-là commencent à bouger aussi.
Agnès Maillot, vous confirmez cette chose? Parce que c'est vrai que quand on regardait l'Irlande du Nord il y a encore quelques années, on avait des communautés qui étaient totalement divisées, qui vivaient les unes à côté des autres, qui cohabitaient, mais chacun avait son quartier, même sa rue, on fréquentait pas les mêmes pubs, les enfants allaient pas dans les mêmes écoles, bref, on était vraiment totalement divisés. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours autant le cas, ou on a quand même une forme de mixité qui est en train d'émerger, Agnès Maillot?
Absolument, absolument. Alors c'est dû effectivement à des changements démographiques importants, à une nouvelle génération qui ne s'aligne plus sur les identités politiques traditionnelles unionistes ou nationalistes, mais qui cherche une voie effectivement représentée par le parti de l'Alliance, mais par d'autres partis plus petits. Donc ça, on voit que le pourcentage de gens qui ne veulent plus s'aligner, qui ne veulent plus s'identifier comme catholiques ou protestants, nationalistes, unionistes, cette proportion-là augmente. On voit des changements démographiques très importants en Irlande du Nord, puisque dans les années, quand le conflit a commencé, les unionistes représentaient à peu près 2/3 de la population. Donc les protestants représentaient 2/3 de la population, les catholiques le tiers restant. Et là, au dernier sondage qui est de 2011, donc qui date,
Alors, on ne vous entend plus. On va peut-être refaire tout simplement la liaison. Fabrice Monlon, en profiter pour faire une toute petite pause et écouter une belle archive, parce que je voulais quand même revenir un moment sur les accords du Vendredi Saint. Il faut revenir là-dessus, comprendre ce qu'il y a derrière, parce que ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est cette crainte d'un retour potentiel à la violence. Pour voir si effectivement cette crainte est légitime, il faut comprendre ce qu'il y avait exactement derrière ces accords. Donc retour en 1998.
Bonne nouvelle. C'est la paix.
Vous savez, si c'est la paix, ça change tout.
Pour nous tous, quand on est en ville, on regarde toujours à droite, à gauche, on fait toujours attention. On se demande si une bombe ne va pas exploser encore. Ça ne vous quitte jamais, cette peur-là. Ça dure depuis 30 ans maintenant. Je suis fatiguée de la violence. Mes enfants n'ont connu rien d'autre. La violence, c'est fini. Qui sait ? Le chemin est long, mais au moins un premier pas a été fait.
Voilà, donc on est en 1998, cet espoir de mettre un terme à un conflit de 30 ans qui a fait officiellement 3480 morts. Le texte avait ensuite été entériné par un référendum qui avait été largement d'ailleurs approuvé. Hein. En Irlande du Nord, plus de 70%, du côté de la République d'Irlande, plus de 90%, donc largement approuvé. Vous nous rappelez en quelques mots, Fabrice Mourlon, ce qu'il y a dans ce texte et ce qui vous semble aujourd'hui potentiellement menacé par ce nouveau contexte?
Alors, dans le texte, il y a tout ce qui est qui concerne les institutions, donc ce dont on a parlé tout à l'heure, et surtout le principe de consentement, c'est-à-dire que qui était déjà dans d'autres accords précédents, mais qui a vraiment été mis en exergue, c'est-à-dire que l'Irlande du Nord reste au sein du Royaume-Uni jusqu'au jour où les habitants votent le contraire. C'est-à-dire que vraiment, on ne peut pas réunifier l'Irlande du Nord avec la République d'Irlande sans le consentement ni de l'Irlande du Nord ni de l'Irlande du Sud. Donc vraiment, il y a l'idée de consentement. C'est très important. Et alors, un piège aussi...
Pardon, il y a un point très important. C'est un point de droit, mais qui est très important. Parce que du côté de l'Écosse, vous pouvez aussi faire ce référendum, mais il faut l'accord de Londres. Est-ce que pour l'Irlande, c'est la même chose? C'est-à-dire que pour avoir éventuellement une consultation, un référendum sur une éventuelle autodétermination, il faut l'accord de Westminster.
Ah, je me rappelle... Alors,
vous vous souvenez plus, pardon.
Non, ça, je me rappelais plus, non. Mais en tout cas, si vous voulez, il y a ça. Il y a un maillage...
Agnès Maillot dit absolument, donc ça a l'air d'être quelqu'un.
Voilà.
On va la retrouver dans un instant. Oui, la réponse.
Oui. Donc, mais il faut quand même un consentement. Ouais, donc d'accord. Ça se fait pas comme ça. Mmh. Hein, c'est ce qui est important. Alors, un piège dans l'accord du Vendredi Saint, c'est qu'on met l'accent sur les deux traditions. Mais en même temps, on peut pas faire autrement. C'est-à-dire que chaque tradition unioniste, protestante et catholique nationaliste est reconnue. Donc ça va jusque dans la pratique des langues, de la culture, etc. Donc évidemment, au lieu de rassembler, ça peut aussi diviser. Mais si vous voulez, on est obligé de les reconnaître aussi. Vous voyez, c'est comme le fait de partager le pouvoir. On peut pas avoir en Irlande du Nord un gouvernement majoritaire, puisque c'est ce qui posait problème justement avant, puisqu'il y avait une majorité de protestants et c'était gouverné en majorité par les protestants. Donc, c'est un accord qui a un équilibre des forces. Donc, vous avez des institutions en Irlande du Nord et vous avez aussi des institutions entre Belfast et Dublin et Londres. Donc, c'est un vrai maillage au niveau institutionnel.
Agnès Maillot, vous nous parliez tout à l'heure des identités, vous nous expliquiez juste avant qu'on vous perde combien elles étaient, en tout cas elles avaient évolué, d'une certaine manière elles sont peut-être moins rigides, elles sont davantage flexibles qu'avant, même si faut pas se leurrer, hein, elles existent toujours bel et bien, mais si on en revient à cet accord du Vendredi Saint et à ce qui peut aujourd'hui peut-être le menacer, l'un des points qui avait été extrêmement difficile à négocier à l'époque de cet accord, c'est évidemment la question de la démilitarisation des groupes armés et en particulier de l'IRA. Vous avez signé il y a quelque temps un ouvrage sur l'IRA et le conflit nord-irlandais aux presses universitaires de Caen. L'IRA a officiellement renoncé à la violence. C'était d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. C'était bien après l'accord. C'était en 2005. Est-ce qu'aujourd'hui, Agnès Maillot, on a des raisons de craindre que une remilitarisation généralisés des groupes armés, en particulier de l'IRA, sont possibles?
Alors, de l'IRA, très peu probable, voire même impossible. L'IRA, théoriquement, n'existe plus. Elle a désarmé en 2005 et elle s'est dissoute en 2007-2008. Donc, en tout cas, l'IRA elle, n'est plus active, même si des soupçons pèsent sur l'existence d'une cellule dirigeante qui serait encore opérationnelle. Mais en tout cas, en tant que force paramilitaire, l'IRA, qui a été opérationnelle pendant toute la durée du conflit, n'existe plus.
Plus de façon ostentatoire, en tout cas.
De façon militaire, elle n'existe plus. Ça, on en est à peu près sûr. Ce qu'on sait d'après des rapports qui ont été établis sur les services secrets britanniques et les services de police britanniques et irlandais, on soupçonne l'existence d'une cellule politique de l'IRA, mais en tout cas, on ne soupçonne pas de l'existence d'une armée, enfin, ou d'un groupe paramilitaire qui serait prêt à reprendre ses activités.
Mais est-ce que pour autant ça nous protège d'un retour éventuel, d'un regain de violence ?
Alors, oui, parce que l'IRA, qui a fonctionné entre 1970, 69, 70 et 98, ou 94 avec le cessez-le-feu, peu importe, cette IRA-là, elle était fortement associée au parti Sinn Féin. Et elle était dans un contexte qui permettait à cette lutte armée, comme il l'appelait, au départ de se développer et après de se maintenir pendant 30 ans. Ce contexte n'existe plus et le parti sur lequel il se reposait pour des questions de propagande, de représentation politique, etc., le Sinn Féin, est désormais un parti qui s'est entièrement métamorphosé, qui est devenu le premier parti en termes de voix en République d'Irlande, donc qui est aux portes du gouvernement en République d'Irlande, qui est au gouvernement bon an, mal an, mais qui est au gouvernement depuis le début de ce siècle. Donc, cette IRA-là, elle ne reviendra pas. En revanche, ce qu'on a sur le terrain, ce sont des groupuscules qu'on appelle les dissidents, c'est-à-dire ce sont toutes les factions de l'IRA qui se sont, au fil des ans, qui se sont éloignés de l'IRA pour former des nouveaux groupes ou groupuscules en opposition aux accords de paix, en opposition aux nouvelles institutions et parce qu'ils considèrent que leur travail n'est pas fini puisque l'Irlande n'est toujours pas réunifiée.
Donc ce sont ces groupes finalement qui constitueraient éventuellement un danger potentiel. Fabrice Mourlon, vous vous êtes intéressé beaucoup à la question de la mémoire. Je disais tout à l'heure, le titre de votre livre, L'urgence de dire l'Irlande du Nord après le conflit. Est-ce que ce travail de mémoire a été fait et bien fait? On a, nous, évidemment, en tête, pour ceux qui ne suivent pas de près les choses, ces grandes fresques à Belfast, par exemple, sur lesquelles on voit d'anciens combattants, etc., etc. Mais on imagine qu'évidemment, c'est bien autre chose que cela. Enfin, on espère.
Oui. Alors, en fait, en 98, il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits, notamment le Bloomfield Report, et qui, en fait, s'est intéressé sur l'avenir des victimes et comment on allait revisiter des meurtres non résolus, des grands événements comme Bloody Sunday, donc il y a eu une enquête. Donc il y a eu un rapport, et en fait, contrairement à d'autres pays, et à l'époque c'est vrai que l'Afrique du Sud était donnée comme modèle. C'était un modèle, alors que ça marche pas non plus aussi, mais bon, il y a eu un moment cathartique en Afrique du Sud qu'il n'y a pas eu peut-être en Irlande du Nord.
Il n'y a pas eu de commission de réconciliation.
Non, voilà. Et donc, en fait, vous avez tout un pan de politique qui a été fait pour les victimes du conflit, hein, qui continue encore. Là, normalement, ils devraient recevoir des indemnités, et puis c'est retardé, etc. Mais il y a eu tout un travail de terrain, notamment au sein d'associations qui ont été énormément financées par les fonds européens. Tout un travail, même psychologique, etc., pour les victimes. Et tout ce qui est travail, ce qu'on dit de mémoire, c'est-à-dire réexamen du passé, ça a été fait soit dans des tribunaux d'enquête comme The Bloody Sunday Inquiry à Derry, ou alors par des petites enquêtes individuelles. Donc ça a été fait de manière très parsemée et très si vous voulez, pas en accord avec la politique sur les victimes. Donc ça dure encore, il y a encore des affaires qui ressortent, et souvent...
Oui, d'ailleurs, la grande majorité des victimes, en réalité, n'ont pas encore été indemnisées. Les familles de victimes. Sur les 3480 victimes que j'évoquais tout à l'heure.
Non, mais il y avait à l'époque déjà un système d'indemnisation qui existait pendant le conflit. D'accord. Et mais le problème, c'est pas tout à fait l'indemnisation, c'est déjà la reconnaissance de leur statut. Et ensuite, je pense que il y a aussi deux aspects. Il y a l'aspect psychologique, évidemment, et il y a l'aspect plus politique. Il y a des, parce que la victime, ça veut rien dire. En Irlande du Nord, il y a des victimes dans chaque camp. Et le problème, c'est que les politiques ont été faites pour les victimes en général, mais une victime de l'IRA, c'est pas la même chose qu'une victime de l'armée, etc. Donc, vous voyez.
Bien sûr.
Donc, le problème, il est là.
Agnès Maillot, il nous reste encore quelques minutes avant d'accueillir une nouvelle invitée et regarder comment l'Europe a accompagné aussi tout cela, parce qu'elle a eu bel et bien un rôle, l'Europe. Il faut peut-être parler de la réunification. On n'aurait jamais osé parler d'une éventuelle réunification avant juin 2016, sauf que depuis, maintenant, on s'y hasarde de temps en temps. Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire un bilan des choses, regarder l'état de l'opinion quant à ce débat? De part et d'autre de la frontière d'ailleurs, à la fois du côté de l'Irlande du Nord, mais aussi peut-être du côté de la République d'Irlande, puisque vous y êtes vous-même en ce moment, Agnès Maillot, vous êtes à Dublin en ce moment.
Oui, alors ce qu'on peut dire sur la réunification, c'est qu'effectivement le Brexit a accéléré un processus de discussion, de débat autour de la possibilité d'une réunification entre les deux parties de l'île. Jusqu'en 2016, il y avait un parti qui se chargeait de se faire le porte-parole de la réunification, c'était le Sinn Féin. Maintenant, tous les partis en République d'Irlande se sont manifestés et ont participé à ce débat, notamment par exemple en nommant une commission parlementaire qui s'est chargée pour la première fois de l'histoire du pays, une commission parlementaire en Irlande qui s'est chargée recueillir les avis de la société civile et de la société politique sur l'éventualité d'une réunification et qui ont produit un rapport de plus de 300 ou 400 pages. Donc ça montre en tout cas qu'il y a un renouveau d'intérêt pour la question de la réunification. Il y a actuellement aussi dans le nouveau gouvernement de coalition en République d'Irlande, il y a un bureau qui se charge des affaires pan-irlandaises et qui regarde les intérêts des deux côtés de l'île, les intérêts qu'on peut avoir à accélérer la coopération nord-sud.
Ça, c'est du côté des politiques. Qu'en est-il du côté de l'opinion ?
Alors, de l'opinion, l'opinion en République d'Irlande, ça bouge. De plus en plus de gens se prennent position en faveur de la réunification, et le résultat du Sinn Féin en 2020 aux élections législatives en République d'Irlande, même si il a dû son succès à ses positionnements sur des questions sociales, il est aussi l'aboutissement de tout un travail sur la réunification. En Irlande du Nord, ce qu'on constate pour l'instant, c'est que même si le pourcentage de gens qui se disent favorables ou du moins qui pensent que la réunification va avoir lieu dans un futur plutôt proche que lointain, et ce pourcentage-là, il a augmenté. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de majorité. Or, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est la question du déclenchement de ce référendum. Ce référendum ne peut avoir lieu que si le secrétaire d'État à l'Irlande du Nord décide, avec les informations dont il dispose, que ce référendum serait justifié, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'opinions en Irlande du Nord pour déclencher ce référendum. Donc ça reste quand même
oui, mais c'est pas impossible, c'est déjà arrivé. En Écosse, c'est arrivé en 2014, on a laissé faire.
En Irlande du Nord, ça sera beaucoup plus compliqué parce que les conséquences d'un référendum sont beaucoup plus complexes. Oui. Si le vote est en faveur d'un référendum, on peut déstabiliser une situation qui est extrêmement volatile.
Oui. L'Irlande du Nord n'est pas l'Écosse. Fabrice Morlon, un tout petit mot peut-être sur cette question de la réunification et ensuite on accueille notre nouvelle invitée. Je vous en prie.
Oui, je suis d'accord avec Agnès sur le fait que, si vous voulez, s'il y a un vote en Irlande du Nord, on risque vraiment de déstabiliser vraiment retendre les faire en sorte qu'il y ait des tensions entre les deux communautés. Donc oui, c'est très dangereux.
On était avec vous Fabrice Mourlon et vous Agnès Maillot depuis Dublin à l'heure où le Brexit remet en cause les fondements de l'accord du Vendredi Saint, suscitant des craintes au sein de la population des régions transfrontalières, des régions frontalières d'ailleurs. On va tenter de comprendre la manière dont les instances européennes se sont imposées comme un facteur déterminant dans la construction de ce chemin vers la paix. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Je ne vois pas ce prix comme une réussite personnelle, mais comme un puissant symbole de la bonne volonté de la communauté internationale et du soutien qu'elle a apporté à nos territoires. Et cela ne fait aucun doute que ce soutien a pu renforcer une volonté, celle de persévérer dans la difficile tâche d'achever cette querelle centenaire, celle d'assurer une paix durable à notre peuple. Et je suis reconnaissant du soutien immense que nous avons, au cours de ce processus de paix, reçu de la part de cette Assemblée et de la part des institutions de l'Union européenne, et en particulier de la part du Programme européen en faveur de la paix et de la réconciliation, qui a été soutenu de manière unanime par cette Assemblée et qui a agi tellement efficacement et tellement positivement au niveau communautaire qu'il mérite d'être étudié par d'autres régions en Europe.
Voilà, cette voix, c'était celle de John Hume, fraîchement décoré en 1998, prix Nobel de la paix. Il est au Parlement européen, John Hume, nationaliste irlandais, qui a beaucoup œuvré pour trouver une solution politique au conflit, et notamment à travers les instances européennes. Bonjour, Giada Lagana.
Bonjour, est-ce que vous pouvez m'entendre bien ?
Je vous entends parfaitement. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques au Wales Governance Center de l'Université de Cardiff. Vu d'ici, quand on regarde les choses, on se dit parfois qu'en réalité, toutes ces affaires-là sont des affaires exclusivement britanniques et on n'imagine pas que l'Europe a participé au fond à ce travail, ce travail de processus de paix. En tout cas, on se dit que son rôle a été relativement mineur. Mais en fait, on se trompe.
Absolument. J'ai travaillé sur ce rôle depuis, on va dire, il y a 6 ans, quand j'ai commencé ma thèse de doctorat. Il n'y a rien de plus juste de dire que l'Union européenne a été une arène fondamentale pour la paix et la réconciliation en Irlande du Nord. Sauf que c'était pas devant les yeux de tout le monde. La subtilité du rôle de l'Union européenne était stratégique pour être acceptée, pas seulement par les deux communautés en Irlande du Nord, mais aussi par les deux gouvernements qui étaient impliqués dans la situation, donc le gouvernement de la République d'Irlande et du Royaume-Uni.
Et là, on peut peut-être saluer aussi le travail de l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors, qui a réussi à mettre tout le monde autour de la table. Il y avait évidemment John Hume qu'on entendait, il y avait Jim Nicholson, membre du Parti unioniste et qui a été aussi eurodéputé, il y avait Ian Paisley, le Premier ministre nord-irlandais de l'époque, bref, il y avait tout ce monde-là, et ça c'est aussi l'art politique de Jacques Delors. C'était évidemment, derrière tout cela, pas seulement des considérations purement politique. Il y avait aussi un volet, j'allais dire, plus économique, plus financier derrière tout cela, pour accompagner, justement, pour construire ce processus-là. Il y a eu une aide financière de l'Europe à partir de 1989 au titre de la politique régionale de l'Union et des contributions de l'Union au Fonds international pour l'Irlande. Vous pouvez nous dire un peu, Giada Lagana, l'ampleur de ces fonds alloués et à qui ils ont profité ?
Oui, absolument. Alors, il y a eu des différentes échelles. Mais la chose la plus importante à se rappeler et à souligner, c'est que oui, c'était une aide financière, mais avec un grand but politique de vraiment avoir un impact, pas seulement sur ce qu'en anglais c'est appelé les high politics, mais vraiment sur la vie des citoyennes. Et ça, c'était on le retrouve dans tous les discours publics de Jacques Delors. Et donc, en 1988, quand l'accord anglo-irlandais a été signé, le premier type d'aide financière a été alloué à l'Irlande du Nord à travers le programme Interreg. Sauf que il y avait déjà les programmes Interreg, il s'agissait de petites actions qui n'étaient pas à un grand écran, donc ils ne pouvaient pas vraiment faire une différence. Mais surtout, le plus grand souci de Interreg était le souci de l'additionnalité. On peut peut-être revenir sur ça tout à l'heure. Et après, encore en 1985, oui, l'Union européenne a été un des plus grands contributeurs du fonds irlandais, encore pour le processus de paix. Mais la vraie différence a été faite en 1994, quand les programmes de paix Peace a été désigné et a été construit vraiment pour l'Irlande du Nord avec sa propre organisation administrative et que donc aussi a eu, on va dire, le pouvoir de autonomiser les voix de la population qui était auparavant marginalisée dans la société nord-irlandaise et que donc après cela on pu participer de façon active au processus de paix.
Pour préciser pour les auditeurs, Gadda Lagana, cette question, ce terme, ce concept d'additionnalité, autour duquel il y a eu beaucoup de contentieux, hein, le fait qu'en réalité, Londres avait la capacité de limiter justement ses fonds alloués à certaines régions. Ce qui fait d'ailleurs que, en réalité, la totalité des fonds n'ont pas été alloués comme c'était prévu. Il y a un point aussi sur lequel il faudrait peut-être revenir, c'est que dès la création du Parlement européen en 1979, on va avoir des députés irlandais, évidemment, qui vont débarquer sur la scène européenne et qui vont naturellement porter leurs revendications respectives. Et en particulier, les nationalistes qui vont très régulièrement dénoncer les violations des droits de l'homme commises par le gouvernement britannique et vous expliquer dans votre article que, à l'époque, je vous cite, une large majorité des parlementaires européens les soutiennent. On imagine assez bien, Gadda Lagana, que ce soutien du Parlement européen n'a pas beaucoup plu aux unionistes irlandais et pas beaucoup plu à Londres non plus. Et que tout cela a peut-être aussi un peu participé de cette défiance générale des Britanniques à l'égard des institutions européennes.
Bon, absolument, ça c'est vrai. Il faut aussi dire que voilà, l'euroscepticisme, c'était pas une chose nouvelle. Pour ce qui concerne le Royaume-Uni et que en particulier le DUP, donc représenté dans le Parlement européen par Ian Paisley, avait plutôt tendance à suivre la position du Royaume-Uni dans ce genre de questions. Mais il faut aussi dire que, par exemple, les premiers débats européens dans lesquels on voit l'Irlande du Nord en tant que protagoniste et le conflit nord-irlandais, ça date de 1981 et avec la discussion sur le rapport Martin. Et on voit Ian Paisley, John Taylor et John Hume parler ensemble en dénonçant le souci de l'additionnalité et en fait même appelant l'Union européenne à s'impliquer un peu plus dans la situation nord-irlandaise. Après, bien évidemment, on a vu le deuxième rapport de l'Union européenne sur la situation nord-irlandaise, le rapport Agirup, bien évidemment, a rencontré beaucoup de résistance dans le Royaume-Uni et notamment dans la population unioniste en Irlande du Nord, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait, c'est juste que en fait ça a manqué de collaboration pendant que l'enquête était menée, mais dans le débat au Parlement européen qui a suivi la publication du rapport, tout le monde a été en accord avec ce qui a été écrit par Agirup.
Oui, ce fameux rapport qui évaluait la situation générale en Irlande du Nord, mais qui essayait aussi de voir ce que l'Europe pouvait faire justement pour aider, pour prêter assistance dans ce conflit. Fabrice Mourlon, peut-être un mot. C'est vrai que je le disais tout à l'heure, on n'a pas idée qu'en réalité l'Europe a accompagné tout cela, ce processus de paix. Alors, l'Europe n'est pas directement signataire des accords du Vendredi Saint, mais elle était là.
Comme le rappelait ma collègue, si vous voulez, il y a eu quand même quatre jusqu'à aujourd'hui, quatre programmes européens pour la paix, Peace 1, Peace 2, Peace 3, Peace 4. Il y a eu énormément d'argent qui a été donné et qui a développé la société civile, comme on l'appelle, avec énormément d'argent donné à des associations. Donc c'est vrai ce que disait ma collègue, c'est que on a impliqué les gens sur le terrain. Hein. Donc oui, l'aide a été assez conséquente. Le dernier programme Peace 4 est un peu moins conséquent. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément d'argent et qu'ils ont créé les infrastructures pour faire tout ce travail de terrain vraiment important.
Et à partir de quand les Irlandais nationalistes, en tout cas, ont considéré que justement l'Europe pouvait être un bon levier? Parce que si on comparait tout à l'heure avec l'Écosse, quand on regarde du côté de l'Écosse, le SNP par exemple avait fait campagne contre l'adhésion à l'Europe lors du référendum de 75. C'est seulement plus tard en fait que les nationalistes ont compris qu'il y avait peut-être une carte à jouer et qu'ils sont devenus des Européens convaincus. Du côté de l'Irlande, ça s'est passé comment? Est-ce qu'on a été Européens dès le départ?
Alors ça, je demanderais plutôt
Agnès Maillot peut-être.
À ma collègue qui connaît mieux ça.
Agnès Maillot peut-être, sur cette question-là. Il nous reste vraiment très peu de temps, mais c'est intéressant dans ce jeu de comparaison entre l'Écosse et l'Irlande. Agnès Maillot.
Oui. C'est une excellente question. La République d'Irlande a toujours été très enthousiaste par rapport à l'Union européenne. Et effectivement, les nationalistes ont joué la carte de l'Europe au moment du processus de paix, parce qu'ils ont tout très bien identifié le fait que l'Europe pouvait être une alliée dans le chemin vers la réunification, et que en plus ce processus de paix et l'accord du Vendredi Saint était possible en grande partie parce que les deux signataires étaient membres de l'Union européenne. Et donc ça a cimenté l'accord de paix. Donc c'est pour ça qu'on a une vraie situation à l'heure actuelle. Mais on espère encore, on regarde vers l'Europe du côté irlandais, du côté nationaliste, pour voir comment l'Europe peut continuer à se faire le champion de ce backstop et de cette absence de frontières et éventuellement de la réunification.
L'histoire n'est évidemment pas finie, hein, elle continue de s'écrire. En tout cas, merci à Gada Lagana qui était avec nous. J'indique aux auditeurs que vous êtes autrice d'un article très intéressant intitulé l'européanisation du processus de paix en Irlande du Nord, qui avait été publié dans la revue Relations internationales. Grand merci à vous, Agnès Maillot, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes auteur, vous, de l'IRA et le conflit nord-irlandais. Grand merci également à vous, Fabrice Mourlon, de nous avoir accompagnés. Vous aviez signé, vous, l'urgence de dire. Toutes ces références, évidemment, à retrouver sur la page de France Culture, sa page de Culture Monde, sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table. Mais d'abord, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Depuis le début de cette semaine, vous dépouillez pour nous la revue américaine Foreign Affairs. Cette revue publie une série d'études qui cherchent à identifier le tournant que Donald Trump a fait prendre à la politique étrangère et de défense américaine. Hillary Clinton elle-même a pris la plume. Que pense-t-elle du bilan de son adversaire de 2016?
L'angle d'attaque choisi par l'ancienne secrétaire d'État de Barack Obama peut se résumer en trois idées fortes. Primo, l'administration Trump est en retard d'une guerre. Elle a plaqué sur l'antagonisme sino-américain des schémas de pensée complètement inopérants, car ils datent de la guerre froide. Or, si la Chine est bien dirigée par un parti communiste, comme l'ancienne Union soviétique, les deux défis n'ont rien à voir entre eux. Deuxio, Trump a sacrifié l'outil diplomatique américain au budget du Pentagone. Or, la force des États-Unis face à la Chine ou à la Russie tenait précisément au système d'alliance patiemment tissé par ses prédécesseurs. Enfin, dans le domaine décisif de la défense, les dépenses ont été programmées de manière chaotique et elles ne permettront pas de répondre aux défis qui se profilent. Bref, Trump est outdated, dépassé, inadapté. Détaillons. D'abord, l'esquisse d'une autocritique. Les démocrates, admet Hillary Clinton, auraient sans doute dû montrer moins d'enthousiasme pour les accords de libre-échange qui, en effet, ont coûté pas mal d'emplois industriels aux États-Unis. Mais traditionnellement, les républicains n'étaient-ils pas eux-mêmes favorables à la libéralisation des échanges? Puis, les critiques s'accumulent sous sa plume et leur niveau de gravité s'intensifie. L'administration Trump a dépensé des sommes astronomiques pour lutter contre le bioterrorisme, mais elle n'a pas imaginé qu'un seul voyageur revenant de Chine pouvait rapporter au pays un virus capable de tuer plus de 200 000 Américains. L'administration Obama avait pourtant mis au point un mode d'emploi précis de 69 pages sur les méthodes à mettre en œuvre en cas de pandémie. Donald Trump l'a ignoré, sous-estimant gravement le risque épidémique. De manière générale, cette administration a sous-estimé les menaces non traditionnelles. Pas un mot sur le climat dans le document intitulé « Stratégie de sécurité nationale » adopté en 2017. La Chine, comme la Russie, exploite l'ouverture de l'Internet et de l'économie américaine pour miner sa démocratie et Trump n'a rien fait pour y parer. Trump a mésestimé l'importance du cyberespionnage chinois et il s'est abstenu de punir les Russes pour leur implication dans les élections américaines. L'accord de Vienne sur le nucléaire iranien de 2015, rappelle aussi l'ancienne secrétaire d'État, avait été précédé d'une intense activité diplomatique et son action, à elle, avait permis d'inclure les signatures de la Chine et de la Russie. Trump l'a jeté à la poubelle, précipitant Téhéran dans les bras de Pékin.
Et alors Brice, Hillary Clinton estime en effet que Donald Trump a sacrifié l'appareil diplomatique américain en Patagone.
Eh oui, y compris sur le plan budgétaire. Trump, on le sait, n'aime pas les diplomates, il préfère les militaires. Mais selon Hillary Clinton, une part importante du budget américain de la défense est consacrée à des dépenses qui ne correspondent qu'à des intérêts clientélistes locaux. Le gouvernement américain maintient un certain nombre de bases dépourvues d'intérêts militaires et aux équipements vieillis, sur pression des élus locaux. Il conserve un stock inutile de chars d'assaut dont l'entretien est coûteux et l'usage douteux. Dans d'autres cas, c'est sur la pression du lobby militaro-industriel et au vu des répercussions sur l'emploi que le Pentagone s'obstine à développer des armements dont la pertinence est décidément sujette à caution. C'est en particulier le cas du fameux F-35 Fighter, l'avion de combat de cinquième génération développé depuis 1996 par Lockheed Martin. Des sommes tellement astronomiques ont été dépensées pour en équiper les trois armes qu'il est devenu impossible de faire machine arrière. Mais c'est un avion de combat tactique qui a montré de réelles failles et il faudra en commander moins que prévu. Hillary Clinton lui préfère manifestement le bombardier furtif à long rayon d'action B-22 Raider, actuellement développé par Northrop Grumman. En effet, explique-t-elle, Russes et Chinois ont développé pour des sommes ridicules en comparaison des armes dites de déni d'accès dont les experts américains devraient se préoccuper davantage. L'armée chinoise dispose dorénavant de missiles balistiques anti-navires qui menacent sérieusement la crédibilité des porte-avions américains. En outre, selon Hillary Clinton, sur les 11 porte-avions américains, je cite, « seule une poignée est réellement opérationnelle ». Plutôt que de se lancer dans un vaste programme de modernisation de son arsenal nucléaire, censé coûter un trillion de dollars au cours des 30 prochaines années, les États-Unis feraient mieux de réduire sensiblement le nombre de leurs missiles balistiques intercontinentaux et de relancer les négociations de réduction des arsenaux avec la Russie. Enfin, surtout, les États-Unis doivent reconstruire leur puissance industrielle et technologique, car ils risquent d'être surclassés par la Chine dans les domaines stratégiques. Bref, pour Hillary Clinton, Trump n'a pas pris la mesure de ces défis qui se profilent. Il a eu tout faux.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, mais aussi sur l'application Radio France et les réseaux sociaux. Demain, c'est justement sur les réseaux sociaux qu'on vous retrouve, Brice. Et à la radio, ce sera lundi. Très bon week-end.